Chers auditeurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette onde noire sur ces petites notes de Jimi Hendrix. Bonsoir.
Mais comment tu n'as pas dit la phrase traditionnelle, onde noire, l'émission la plus...
Rock de la bonne FM. Voilà. Mais l'émission polar, parce qu'il y a peut-être des émissions qui sont un peu plus rock que la nôtre.
Voilà, et sans transition, comme on dit dans les meilleures radios, nous avons le plaisir de retrouver Jean-Marc. Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va très bien, l'été est là, les vacances approchent, donc ça va.
Tout va bien, de belles lectures passées et à venir.
Oui.
Et donc, de quoi est-ce que vous allez nous parler ce soir?
Alors, ce soir, une fois n'est pas coutume, je vais parler de deux romans. Deux romans qui ont un petit point commun, quand même, puisque ce sont à chaque fois les seconds romans de deux auteurs américains qui avaient été découverts il y a quelque temps, les deux dans la série noire. Et je crois que les ressemblances s'arrêtent là. Si, il y en a une autre, c'est que ce sont deux très bons romans. Alors, le premier, c'est Shannon Burke. Shannon Burke, c'est un ancien ambulancier qui a travaillé dans Harlem et qui avait écrit il y a quelques années Manhattan Grand Angle, un roman remarqué à la série noire. Et dont vient de sortir 911 chez Sonatine, traduit par Denis Gaios. Alors on se retrouve un peu dans le même univers que dans Manhattan Grand Angle, c'est-à-dire que le héros est ambulancier à Harlem, et que là on a une chronique noire donc de ce Holy Cross qui était parti pour être médecin, qui a raté son examen d'entrée et qui pour travailler est parti à Harlem faire ambulancier. Et là bien entendu Harlem dans les années 90, il se retrouve au contact de la folie, de la misère, de la drogue, des junkies, de la haine, du désespoir. Ça, c'est... Et puis, il y a aussi, quand même, pourquoi il tient ? Parce qu'il y a l'adrénaline, il y a ce sentiment qu'on sert à quelque chose, et même parfois un peu plus trouble, c'est une sorte de toute puissance de celui qui peut décider s'il sauve ou pas la vie de quelqu'un. Et cette chronique, ça va être l'histoire de, alors de quoi ? D'une descente aux enfers ou d'une rédemption ? C'est ça qu'on va voir. Très peu d'intrigue, juste des petites séquences, avec quand même une question, c'est ce narrateur, il va basculer de quel côté ? Est-ce qu'il va basculer du côté des ambulanciers qui semblent presque, comment dire, des saints là-dedans, c'est-à-dire qui cherche toujours à aider, qui cherche toujours à faire le bien, ou est-ce qu'il va basculer du côté de ceux dont on sent que, ils ont commencé à aimer ce pouvoir. Finalement, d'une certaine façon, ils aiment cette souffrance, ils aiment surtout le pouvoir de décider qui va survivre, qui va mourir.
Ça, c'est un grand thème du roman noir.
C'est un grand thème du roman noir, et là, il est vécu au ras du bitume par quelqu'un dont on sent bien qu'il sait de quoi il parle. Et la grande force, alors ça fait penser à Nécropolis, hein, forcément, comme le premier d'ailleurs, comme Manhattan Grand Angle, avec une différence, c'est que malgré tout ce que je viens de dire, et bien que Shannon Burke ne tombe jamais ni dans l'apitoiement, ni dans l'angélisme, ni dans tout ça, il y a une certaine foi dans l'être humain quand même. Voilà. Et cette foi, ça donne une lueur, petite lueur d'espoir et d'optimisme au milieu d'une marée noire, quand même, il faut bien le dire.
Il y avait eu, il y a quelques années, il y avait eu un roman comme ça de Connelly qui se passait dans Hell's Kitchen à New York aussi. Il y avait d'ailleurs eu un film avec Nicolas Cage dans le rôle.
Ouais, de Martin Scorsese.
Ouais, un film de Martin Scorsese. Il y avait un thème un petit peu semblable. Et c'était à tombeau ouvert.
Voilà. Bon, et là, il roule aussi à tombeau ouvert par moment.
Ah, c'est une bonne expression.
Vous savez s'il est noir ou blanc, ce Shannon Burke, ça n'a pas une importance, mais c'est juste à cause de Harlem, je me dis que s'il est...
J'ai vu une photo sur Internet, il est blanc. Visiblement, les gens qui... Alors, les ambulanciers qui travaillent là, c'est assez mélangé, et ils sont tous mal vus par une grande partie de la population. Parce qu'en plus d'aller sauver des gens dans des conditions difficiles, de voir des horreurs, ils se font souvent insulter, visiblement, ce qui rajoute à la difficulté.
Effectivement, oui.
Et alors, l'autre auteur, c'est une femme, elle est noire, elle s'appelle Attica Locke, et on l'avait découverte avec Marée Noire, à la série noire, un peu après le Shannon Burke. Alors là, on est sinon dans... on est à l'opposé, on est dans quelque chose complètement différent. On est dans un roman très classique dans sa construction, qui se déroule en Louisiane, dans une très belle propriété qui s'appelle La Belle Vie, qui appartient depuis des générations à la famille Clancy, qui est une famille de blancs, Et depuis des générations, les Grey, qui sont noirs, y travaillent. Et Karen Grey, c'est la dernière de la lignée. Et elle dirige toute la maison qui est devenue un musée et qui présente un spectacle sur le sud d'autrefois, puis qui organise des mariages, des réceptions. Ouais. Tout ça, ça roule. Ça a l'air de finalement de bien se passer jusqu'au moment où un cadavre d'une jeune femme, une latino clandestine qui travaillait dans le champ de canne à Sucre voisin, est découverte morte à côté de la propriété, en bordure de la propriété. Et bien entendu, il va y avoir une enquête, et bien entendu, on s'en doute un peu, cette enquête va faire remonter certains faits du passé qui avaient été enterrés bien avant cette pauvre latino. Alors, il n'y a pas de grande découverte sur la forme. Hein. On a un crime actuel qui puise des racines dans les secrets du passé, les puissants qui écrasent les faibles, comme chez James Lee Burke en Louisiane.
Les blancs qui...
Les blancs contre
les noirs.
Voilà, les blancs contre les noirs. Les noirs qui veulent s'intégrer par rapport aux noirs qui revendiquent qu'ils sont les victimes de l'esclavage. Tout ça, ce sont des choses connues. Mais c'est très très bien mis en scène. L'écriture, elle est claire, elle est limpide. Et les personnages, ils sont bien solides et puis bien compliqués, comme on les aime. C'est-à-dire qu'ils sont pas simples. L'intrigue, elle est très bien menée avec ce qu'il faut de coups de théâtre et de secret. Et puis voilà. Du coup, ça fait quelque chose de très très agréable à lire.
Ça fait déjà beaucoup de qualité.
En plus, l'atmosphère de ces grandes familles du Sud, là, elle est très bien rendue, parce que finalement, avec James Lee Burke, on est un peu contre ces grandes familles du Sud. Là, on les voit un peu de l'intérieur. Et puis, vous découvrirez, si vous lisez le livre, un pan d'histoire que je connaissais pas du tout, et dont on ne peut pas parler, parce qu'il se trouve au centre du secret de l'intrigue. Donc, bien entendu, on vous en parlera.
Un grand chute.
Voilà. Et puis aussi, ce qui n'est pas inintéressant en ces temps où on voit ça, pas uniquement aux États-Unis, c'est intéressant de voir ces Noirs du Sud avoir des attitudes assez, on va dire, racistes ou xénophobes vis-à-vis de ces Latinos qui viennent leur prendre leur travail. C'est amusant, non, mais c'est intéressant de voir que les mêmes causes ont les mêmes effets un peu partout.
Ouais, c'est toujours sain de lire ce genre... De fait,
alors,
parce que...
Je crois que j'ai pas dit, par contre, le traducteur. Donc, exact. C'est Attica Locke, c'est l'auteur. Le roman s'appelle Dernière récolte, et c'est traduit de l'américain par Clément Bode, et ça, c'est à la série noire, comme son précédent.
Je vais peut-être vous prendre un petit peu au dépourvu, Jean-Marc, mais un livre pour l'été, en dehors, évidemment, de ces deux livres, dans les six derniers mois, un livre que vous
allez,
conseillez.
Deux livres pour l'été, alors.
Allez, deux.
Allez, le dernier, Carl Yassen. Je vais vous retrouver ça. Et puis, alors, je viens d'avoir une bonne surprise. Tony Lerman est mort, on le sait tous, mais sa fille a repris le flambeau. Elle a écrit La fille de femme araignée. Et ma foi, j'étais un peu inquiet au départ parce que.
On pouvait, oui.
Et voilà. Et non. Elle fait très très bien le boulot. C'est une bonne suite et on retrouve des personnages qu'on croyait perdus.
Ouais.
Et Carl Yassen, c'est mauvais coucheur. Voilà.
Voilà. Et ça, c'est réjouissant en plus.
Oui,
Carl Yassen, c'est une belle lecture d'été. Et je suis d'accord sur le Annie Lerman, qui s'empresse de tuer le père dès le début du roman.
Premier chapitre, paf.
Mais c'est très bien fait. Je trouve qu'elle va encore un petit peu plus loin dans les détails sur les Indiens Navarro. Et elle le fait très, très bien et c'est très finement amené.
Oui, et puis elle amène une petite touche personnelle en s'attachant un peu plus aux relations entre les personnages familiales, entre autres. Il y a un peu plus d'émotion peut-être que chez son père, je pense.
Oui, c'est une femme qui écrit, Jean-Marc, c'est ça.
Je ne voulais pas le dire pour pas être taxé de je ne sais trop quoi, d'ailleurs.
Voilà.
Donc voilà.
Ça aurait été quand même dommage d'abandonner Jim Shea.
Voilà.
Jean-Marc Lehrer, on va vous souhaiter un bon été, on va vous souhaiter plein de bonnes lectures, et puis on propose à tous nos auditeurs de vous retrouver de toute façon sur votre blog, Actu du Noir, et avec plein de bons conseils de lecture. Jean-Marc, merci beaucoup, et puis on se retrouve en octobre.
Voilà, merci, et très bonnes vacances à vous aussi.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors Jacques, un petit peu de
musique. Donc, en fait, on a beau être l'émission la plus rock, ça va être plutôt du jazz, encore que... c'est le Marc Ribot Trio, Marc Ribot, je pense qu'on dit en américain. Donc, c'est enregistré il y a quasiment 2 ans, le 12 juin 2012, au Village Vanguard de New York, avec un bassiste qui s'appelle Henry Grimes, qui a 80 ans quasiment, et à la batterie Chad Taylor. Le morceau il s'appelle Wizard, et c'est une composition d'Albert Ayler, donc c'est un petit rapport quand même avec le polar, puisque il y avait eu les 7 morts d'Albert Ayler qui étaient parus à la série noire il y a quelques années. Il a eu une mort un petit peu étrange. Voilà, et donc on va écouter, c'est un trio, donc guitare, basse, batterie, Marc Ribot, vous le connaissez ceux qui aiment le rock, parce qu'il a été le guitariste de Tom Waits sur son meilleur album Rain Dogs, et sur plein d'autres, et sur plein de tournées.
Si on écoute la musique, c'est pas mal non plus.
Voilà, il a été aussi le guitariste des Lounge Lizard de John Lurie, ça c'est plutôt pour le jazz expérimental, et maintenant on écoute un petit peu de Wizard. Et voilà, ça commence quand même un petit shuffle tranquille, et puis ça part un petit peu en free jazz. Il faut dire qu'Albert Ayler, bon, c'était un saxophoniste, jouait la partie de saxo à la guitare. Donc on va revenir au polar, avec un roman de Maurizio De Giovanni, qui s'appelle « L'été du commissaire Ricciardi », dans la collection Rivage Noir. Donc je rappelle, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, que c'est la troisième enquête de ce commissaire, créée par donc Maurizio De Giovanni. Les précédents étaient, vous en doutez, « L'hiver et l'automne ». Nous sommes.
Enfin, il manque le printemps, mais bon.
Oui, mais le printemps, ça sera, arrivera peut-être après.
Ils sont dans l'ordre.
Oui.
Bon, c'est pas grave. Allez.
Non, en fait, c'était l'hiver et le printemps, bien sûr.
Ah,
puisqu'en fait, c'est l'été. Voilà, c'est l'automne qui va
même arriver
à l'automne.
Oh là là.
Tiens, tu fais bien de me rectifier, voilà.
Voilà.
Donc, nous sommes, en fait, c'est plutôt eux qui sont à Naples, toujours comme dans les précédents, dans les années 30, en 1931. Pour ceux qui n'auraient pas vraiment suivi avec grande attention leur cours d'histoire, en 1931, je rappelle, l'Italie était en pleine période fasciste.
Ça a duré un certain temps.
Voilà, Mussolini et ses sbires sont au pouvoir avec la bénédiction du roi et du pape. Mais la vie, malgré tout, continue et les meurtres existent toujours. Non pas ceux exercés par les milices du pouvoir, mais de simples meurtres, si on peut dire, des meurtres de droit commun. Ici, enfin dans le roman au début, c'est une femme qui est assassinée. Elle est la seconde et jeune épouse d'un duc local. duc local qui est plutôt bien avec le pouvoir en place. Et c'est donc Luigi Alfredo Ricciardi,
oui, plutôt,
qui est de permanence ce dimanche, et c'est donc à lui que va échoir l'enquête. Il sera aidé par son fidèle adjoint, le bedonnant Médé Bonner, brigadier Mayonne. Il convient de rappeler, à ce moment de la chronique, chers auditeurs, que le commissaire Ricciardi a une particularité à la fois intéressante et gênante. Il entend les derniers mots, les dernières pensées des morts. Alors pour ces enquêtes, cela peut être pratique, mais dans la vie de tous les jours, c'est perturbant, surtout dans une ville comme Naples à cette époque, ou peut-être d'ailleurs encore maintenant, les morts, il y en a quelques-uns. Donc évidemment, si on entend toutes les pensées, ça occupe l'esprit. Dans le cas qui nous concerne donc aujourd'hui dans ce roman, il entend la duchesse parler de sa bague qu'on lui a volée. Et effectivement, elle n'en a plus à aucun doigt. Les suspects ne manquent pas. Le fils du duc, l'amant ou les amants de la duchesse, et bien d'autres. Mais les flics doivent faire attention car on ne bouscule pas la vie d'un notable, surtout près du pouvoir, comme ça. Mais en fait, Ricciardi n'en a un peu rien à faire, pour tout dire. Et il va mener son enquête un peu comme il l'entend. Alors cela pourrait être un simple ou du nid, donc il a fait en fait une enquête comme ça, et on ne vous en parlerait pas. Mais en fait, ce qui est en plus de l'intrigue, la richesse du roman, c'est la vie à Naples, dans ces quartiers où la misère côtoie les plus grandes richesses, où le poids de la dictature est de plus en plus lourd, où la chaleur, c'est en été, fait perdre la tête aux plus sensés. Il y a des pages mais magnifiques, presque poétiques sur Naples, on dirait à certains moments presque du Iso sur Marseille. C'est dire. Depuis le premier tome, Maurizio De Giovanni a vraiment affiné son personnage de flic. On dirait qu'il le tient vraiment, là, il sait vraiment quoi en faire. On a pour la première fois une vraie description physique du personnage, grand, assez maigre, avec ses beaux yeux verts. Et pas seulement Ricciardi, d'ailleurs tous les autres. Mayonne, qui est presque aussi important, c'est un peu le Sancho Panza du commissaire. Et puis il y a les personnages secondaires, qui font plus que de la figuration. Ils jouent un peu leur rôle sur le coin, dans des petits moments. Donc en fait, dans les personnages secondaires, il y a la tante Rosa, qui est la tante du commissaire. Il y a une prostituée, plutôt un travesti, qui s'appelle Bambinella. Et puis il y a le curé aussi. Il n'est pas très croyant.
Nettement moins travesti.
Enfin, oui, d'une certaine façon, oui. Il n'est pas très croyant, le commissaire, mais il va quand même à sa rencontre parfois. Et puis on est à Naples. Alors le romantisme devient un romantisme d'opéra italien. Les histoires d'amour font souffrir. Et enfin, avant tout, il y a la langue, en fait, dans la qualité de ce roman, la langue de Giovanni. Une superbe écriture qui est aussi savoureuse que peut l'être sa ville, ou les petits plats de légumes grillés, ou les anchois frites que cuisinent certains des personnages.
Donc c'est peut-être l'occasion de rappeler le traducteur, d'ailleurs.
Donc le traducteur, c'est vrai, je ne l'ai pas cité. Comme dans les trois précédents, le traducteur est une traductrice, elle s'appelle Odile Rousseau. Voilà, et donc on n'est pas pressé parce que on approche des infos et on est en plein été, mais on attendra l'automne. C'est ça, oui, parce que c'est le printemps, c'est ça, moi qui vais un peu.
Voilà, c'est le printemps. Donc il nous manque l'automne.
Donc il paraît qu'il y a une cinquième avec, je crois, c'est le Noël du commissaire Ricciardi. Et ça, c'est en italien, peut-être qu'ils nous changeront la traduction française.
Natale.
Et donc, rendez-vous après les infos.
Voilà, à tout de suite.